Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois PayPal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x.
Salut toi, tu sais quoi? J'ai l'honneur de t'annoncer que tu es convié à la soirée pyjama de Mademoiselle. On a créé ce podcast pour que tu puisses passer un moment unique avec la jeunesse talentueuse d'aujourd'hui. Celle qui chante, qui s'engage, qui danse, qui joue, qui rêve. Alors voilà, on a des bonbons, des guirlandes et puis surtout, on a deux micros. Et avec tout ça, on va te présenter une personnalité trop cool. Tu verras, elle est géniale, fringante, motivée et hyper inspirante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un fuck, marry, kill. Et puis après, on va se raconter des anecdotes insolites, des souvenirs émouvants et se faire des confidences. Tu l'auras compris, ici, la nostalgie est de mise. Ensemble, on va réveiller nos âmes d'enfants, on va chiller et surtout, on va se marrer. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, en ce moment, j'en ai bien besoin. Alors, invitation acceptée ? Pour ce tout premier épisode de Soirée Pyjama, on va te faire rencontrer Adèle Castillon. Tu la connais peut-être déjà, c'est l'un des deux visages du groupe Vidéoclub qu'elle a créé avec son binôme et amoureux Mathieu Reynaud. C'est un duo musical coloré, nostalgique, sur une vague un peu pop et 80s. Et Adèle, comment te la décrire ? Bah déjà, elle est chanteuse, comédienne et youtubeuse. Elle n'a que 19 ans, mais elle a déjà fait tellement de choses. Elle a joué aux côtés de Gilles Lelouch, elle a interviewé le Dalai Lama et cumule aujourd'hui plus de 60 millions de vues sur YouTube avec le titre « Amour plastique » que t'as forcément déjà entendu à la radio à un moment donné. Alors que t'aimes déjà ce duo ou que t'as envie de le découvrir simplement, là j'ai une bonne nouvelle. Le 29 janvier 2021, ils ont sorti leur tout premier album, « Euphorie ». Et d'ailleurs justement, on s'est inspiré de l'ambiance années 80, 80s de l'album pour lancer le podcast et proposer un fuck marry kill à Adèle. Le principe, il est tout simple. En gros, parmi trois personnalités, elle doit en choisir une pour passer la nuit avec, l'autre pour se marier et elle doit tuer la troisième. On l'a mise au défi de faire son choix entre Leonardo DiCaprio, Eleven de Stranger Things et George Michael.
Bon, pour passer la nuit avec, je pense qu'il n'y a pas photo, Leonardo DiCaprio in the bed. Ensuite, c'est compliqué parce que Eleven, elle est un peu jeune quand même. Donc, c'est un marié. En même temps, avoir une meuf qui a des super pouvoirs, c'est stylé. Donc, je pense que je dis, ouais, je marie Eleven, surtout qu'elle a grandi depuis. Donc,
oui, c'est ça.
En vrai, elle n'est pas très loin de mon âge. Donc non, vas-y, je marie Eleven, Millie Bobby Brown, et je tue George Michael. Désolée mon pote, mais...
Ouais, bah, pas inutile, mais c'est pareil, on perd un gros pan de la musique des années 80, c'est pas très grave.
Oui, non.
Adèle, est-ce que c'est ta première soirée pyjama ?
Bah ça, les soirées pyjama, c'est drôle, avec mes copines, nos soirées pyjama, on les appelle les soirées prunes. Alors je sais plus d'où ça vient, ce mot prune, pourquoi on les a appelées comme ça. Mais en général, c'est les soirées, quand on dit on a besoin d'une soirée prune, c'est les soirées dont on a besoin pour pleurer. On sait qu'à la fin, on sera autour de rosée, de trois bouteilles de rosée vides, en train de pleurer sur notre vie et ça fait du bien. C'est un peu les... Donc oui, je fais encore des soirées pyjama et j'en fais beaucoup avec mes potes.
Et c'est des potes que t'as du coup depuis longtemps, je suppose
Ouais, les filles, ma bande de potes filles, c'est vraiment des copines depuis très longtemps. On se connaît très bien. On en a fait des soirées prunes.
T'as le souvenir d'une soirée en particulier qui t'a marqué avec ces potes-là ou
Oui, alors moi, mes deux meilleures potes, elles s'appellent Lou et Maya. On avait fait un voyage en Bretagne. On était dans un bled qui s'appelait Plouarzel.
Ah, oui.
Et c'était un moment de notre vie où on était très angoissés. On avait toutes des problèmes hyper différents. Mais on était pas bien, on était très très chargés émotionnellement. Et on s'est retrouvés dans cet endroit, dans une maison qui était super belle. Et en vrai, c'était un peu une espèce de capsule temporelle, ce petit voyage. On est resté quoi, 3-4 jours. On est arrivé donc à Plouarzel, il y avait un coucher de soleil, on était juste à côté de la plage.
Trop bien.
C'était l'hiver. Donc ambiance hiver, plage, coucher de soleil, magnifique. Enfin pas hiver, non, c'était mai. Donc première belle journée, mais on est en Bretagne, donc il fait froid. Et on pose nos affaires et on sort en vitesse sur la route qui menait à la plage. Et on était tellement euphoriques d'être arrivés et de se sentir loin de tous nos problèmes qu'on a commencé à rigoler. Mais tu sais, comme dans une scène de film, à rigoler bêtement en courant jusqu'à la plage. Et c'était un peu entre le rire et les larmes parce qu'on avait besoin de tout lâcher.
Et
j'ai des magnifiques photos de Plouarzel. Et donc c'est vraiment un voyage qui nous a marqué à toutes les trois parce que bon, on était vraiment dans notre petit cocon et loin de tout et ça a fait un bien fou quoi.
Ça a l'air trop incroyable et les villages de Bretagne sont trop incroyables aussi en général, les petits bleds paumés.
Ouais non, c'était assez fou. Je me souviens de passer nos soirées sur la plage toutes les trois. Et c'était magnifique, et la marée était basse, on avait l'impression d'être sur Mars un peu. Enfin, c'était dit comme ça, ça va être bizarre, mais c'était vraiment magnifique. Et donc c'était les meilleures soirées pyjama qu'on ait faites ensemble, je pense.
On va passer du coup à l'étape le bol à questions. Donc t'as plein de petites questions dans le bol juste devant toi, qui concernent plein de petites choses sur ton parcours, etc. Sur ta jeunesse, sur ce que t'aimes, sur tes goûts, donc tu vas pouvoir piocher la première.
Ok. Le sujet de ta dispute la plus débile avec Mathieu. Ah bah alors ça, on est très fort pour les sujets de dispute débiles. Donc Mathieu, c'est mon partenaire, la moitié du duo de Vidéoclub. On a monté ce groupe ensemble et il n'est pas sans préciser que nous, quand on a commencé la musique, on était ensemble. Et donc, on s'est mis un peu en couple en même temps qu'on a commencé la musique.
C'est la musique qui vous a fait tomber amoureux ?
Ouais, un peu. C'est vrai que ça a pas mal joué. Donc, effectivement, on était ensemble. Et en même temps, on faisait de la musique il y a 3 ans. Et ça, on en a eu sur 3 ans. a eu des disputes débiles. Ah oui, 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 c'est bon. J'ai. Ok. J'ai toujours adoré Xavier Dolan. Et j'ai toujours parlé de ses films avec énormément d'intérêt. Et puis, j'ai toujours été très impressionnée par ça. Et notamment Mommy, qui est le premier film que j'ai vu de lui, donc qui m'a un peu importé son univers. Et j'ai parlé de ça avec Mathieu, c'était il y a longtemps. Et Mathieu disait non, moi j'ai pas aimé, etc. Et en fait, j'ai appris, genre, pendant 6 mois, un an, je sais plus si c'était Mommy ou si c'était un autre film. Mais en tout cas, bon, c'était un film que j'adorais et lui, il me cassait. Il me disait non, c'est pourri, etc. Moi, je l'ai vu, c'est nul, etc. Et 6 mois ou 1 an après, j'ai appris qu'il n'avait jamais vu ce film. C'est pas énervant ?
C'est archi énervant.
Donc, on s'est disputé. Je lui ai dit, mais frère, tu l'as jamais vu ? Ça fait 6 mois, 1 an que tu me dis que c'est pourri. Il disait, oui, je sais, mais je pensais le connaître. Ah, c'est bon, je l'ai. Call Me By Your Name.
Ah oui, ok.
Ouais. Et oui, il était là un peu en mode antipathique avec des dents, non, mais c'est pas ouf et tout. Donc je lui ai montré, il a adoré.
Ouais, bah évidemment.
Je lui ai dit, dans ta gueule, les garçons. J'en chope une deuxième.
Oui, tu peux, allez.
Cool, j'adore les questions. Tu nous racontes ton coup de foudre avec Mathieu sur les bords de Loire. Quel type de chanson il t'envoyait ?
Alors pour recontextualiser un peu, en fait, Mathieu t'envoyait des chansons. Au moment où vous tombiez un peu amoureuse, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Alors, on s'est rencontrés par un ami, donc effectivement, sur les bords de l'Erdre à Nantes. Et il va peut-être pas être content, mais en vrai, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu un coup de foudre.
D'accord.
En fait, au début, j'étais pas trop. Je me souviens que quand on s'était vus, j'étais un peu, je sais pas, j'avais jamais eu d'histoire avec de garçons.
C'était ton premier amour, Mathieu ?
Premier amour, première relation. Et du coup, non, j'étais, en fait, à ce moment-là, tu sais, tu captes pas trop quand tu plais à quelqu'un, ou alors faut y aller et tout. Et là, non, j'avais pas trop capté. Et au final, par contre, je sentais que j'avais un intérêt. J'ai tout de suite senti que cette personne-là, j'avais envie de lui plaire. Mais pas forcément un truc en mode amour ou essayer de le pécho, je sais pas quoi. Mais juste, je sentais que j'avais besoin de lui prouver quelque chose. Et lui, il avait un peu ce truc-là aussi. Mais c'est lui, c'est dans sa nature. C'est qu'il aime bien impressionner les gens qu'il rencontre, etc. Ouais. Et donc, non, ça s'est fait comme ça. Et puis, juste après notre première rencontre, du coup, j'ai incrusté à la soirée de Maya, ma meilleure pote, pour le nouvel an. Donc voilà, on s'était rencontrés le 27 décembre 2017 et le 31, on s'est revus à la soirée de Maya.
Ok, et c'est là où vous avez commencé à...
Et ce soir-là, il a bu beaucoup d'alcool.
Ah.
Et Mathieu, il n'a pas du tout l'habitude de boire. Et d'ailleurs, je crois que depuis ce jour, il n'a pas retouché une seule goutte d'alcool. Mais voilà, je crois qu'il était un peu stressé, il se retrouvait à une soirée où il ne connaissait pas grand monde et tout. Et non, il m'avait un peu dans le collimateur, et moi aussi, du coup, puis on a beaucoup parlé pendant la soirée. Et au bout d'un moment, à 22h, il a disparu.
Catastrophe de fin de soirée.
Ouais, catastrophe. et donc, il a vomi, donc ce n'était pas le soir non plus pour essayer de papoter un peu plus avec lui, quoi.
C'est marrant, c'est récurrent quand même, ces histoires de...
Ah ouais.
On boit quand on est stressé, il y a une personne qui nous intéresse,
c'est ça,
et après...
Hop, tu finis... Mais plus tard, il m'a dit que ce soir-là, il avait eu très envie de m'embrasser à un moment donné. Mais heureusement, enfin, c'est cool parce que ce qui est beau aussi dans notre mise en relation, c'est que ça a pris du temps et c'était assez doux et chouette. Et non, donc voilà, on s'est dragué un peu comme ça. Et lui, on parlait beaucoup aussi par message.
Ouais.
Depuis la première fois qu'on s'était vus, en fait, on se parlait tout le temps.
Vous parliez beaucoup musique
pas dès le début. Au début, on se faisait beaucoup de blagues. Je sais que je l'ai appris à un moment donné. et on a fait des canulars. On se faisait chier. On a fait des canulars sur le Bon Coin. Et il y en a un qui nous a marqué. C'était une dame qui vendait des gigoteuses pour enfants.
Je sais pas du tout ce que c'est.
C'est des trucs pour les enfants, pour les bébés.
Ah, c'est les espèces de draps que tu utilises
pour
les bébés.
Ok. Et elle les vendait genre 2 euros et on essayait de négocier le prix pour les gigoteuses. Enfin bon, en vrai, pas de sens, pas d'intérêt. On a juste
partagé le même humour au moins.
Ouais, exactement.
T'as trouvé ton alter ego.
Et
à
après, il a commencé à m'envoyer des musiques qu'il faisait. Lui, c'était un peu une technique de drague. Il me disait, ouais, je viens de faire ça. En fait, ça faisait 3 semaines qu'il était dessus. J'ai fait ça en 2 minutes.
Trop mignon.
Et puis, non, très vite, moi, je lui ai partagé mon envie de faire de la musique parce que depuis toute petite, mon premier rêve à la base, c'était de devenir chanteuse. Enfin, devenir Hannah Montana. Mais c'était pas
bien
possible
Anna
ça.
Montana, ouais.
Ah bah c'était ma première idole. C'était mes premiers posters dans ma chambre, c'était elle.
Ah ouais, ton mur de chambre, genre il était placardé.
Ouais, il y en avait pas mal.
Ok, et du coup c'est comme ça que t'es entrée dans le chant. C'est en voulant copier Anna Montana ou
ouais, c'est
avec
ça.
Elle,
j'avais son DVD d'un petit concert, donc je le regardais en boucle, je le connaissais par cœur, j'apprenais les chorés et tout. Et non, j'ai toujours eu cette envie-là. Je savais que je faisais partie des personnes qui avaient la chance de pouvoir chanter juste. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça.
Oui,
je pense à quelques potes.
Je confirme.
Mais donc je savais que, bah, évidemment, si je voulais en faire quelque chose, il fallait que je le travaille et tout. Mais donc je ne l'avais jamais vraiment fait. Mais je chantais beaucoup pour le plaisir. Et quand Mathieu m'a parlé de musique et tout, et qu'il avait du matériel, et qu'en plus ça, il me plaisait, enfin bon, c'était tout. Tout était trop bien pour faire de la musique ensemble. Donc on a commencé et c'est là que Vidéoclub est né, quoi.
C'est assez fou quand même comme histoire, la chance que vous avez de vous être rencontrés, quoi.
Ouais, c'est chouette.
Tu peux passer à une autre question.
Je pioche. Un petit mot pour ton ou ta pire ennemi de primaire. Au primaire, j'avais pas d'ennemis. Déjà, de manière générale, j'ai jamais été trop à problème ou quoi, parce que j'ai toujours... j'aimais bien un peu plaire à tout le monde. J'étais un peu caméléon, donc je m'adaptais à tout le monde. Et puis, j'aimais bien faire rire toute la classe. Au primaire, j'ai vraiment pas de souvenirs. D'ennemis. Au collège, par contre, j'ai eu quelques petits soucis avec des personnes, je sais pas, qui étaient un peu jaloux. J'avais commencé mes trucs sur internet et donc j'ai eu une petite phase où je me faisais harceler par un groupe d'une vingtaine de personnes.
Ah ouais ? T'as commencé à 13 ans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Donc t'étais hyper jeune. Et c'était des gens que tu connaissais depuis le primaire ou,
Non, c'était des gens que je connaissais depuis le collège, qui étaient pas dans le même collège que moi. Mais je les connaissais un peu bah, de. par quelqu'un. Et ils m'envoyaient des messages pour se moquer de ce que je faisais à l'époque. Et moi, je leur avais répondu, bah, vous pouvez vous moquer, mais bon, en attendant, je me souviens, j'avais 2000 personnes qui suivaient ma page Facebook au départ. Ouais. Je leur ai dit, en attendant, il y a 2000 personnes qui aiment bien ce que je fais, donc laissez-moi tranquille. Mais c'était bienveillant, enfin, c'était en mode, moi, je veux pas de problème.
Ouais, et à partir de là,
ils sont partis en vrai, en mode...
Ah ouais ?
Et en fait, ils avaient compris le truc un peu en mode, je fais la maline. Et donc, ils sont venus... À la sortie de mon collège, parce qu'ils voulaient me taper, enfin en tout cas me mettre un coup de pression. Mais j'avais ma mère, donc j'ai déposé main courante.
Ah ouais, d'accord, donc c'est parti hyper loin en fait, ouais. Cette histoire. Et c'était des enfants de ton âge ?
Non, ils étaient plus grands.
En plus ?
Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a été assez court, mais intense. C'était un peu angoissant. Je suis fière parce que j'ai pas lâché le truc. Au final, j'ai continué et je pense qu'aujourd'hui, ma réussite, c'est la meilleure réponse que j'ai pu leur donner.
Bah grave, ils doivent être bien là. Ouais,
c'est ça. Et dans l'eau, il y en a un qui avait essayé de faire un peu de musique sur Internet et qui avait fait The Voice notamment.
Ok.
Je suis très contente, il a pas réussi.
D'accord. Donc c'est ça ton mot, ça c'est pour lui.
Non, mais
très heureuse que tu n'aies pas gagné.
Si jamais il se retrouvait à écouter ce podcast, je sais aussi que quand on est jeune, on peut faire des choses stupides. Et je pense que, enfin, c'est pas des gens qui étaient bêtes. Je pense qu'aujourd'hui, ils savent que c'était pas forcément très sain. Et je pense qu'il y avait mieux à faire que de marceler comme ça. Parce qu'au final, ça a juste été une petite source de mal-être pour moi pendant quelques temps. Et puis après, c'est parti. Thanks ouais. God, mais non. Voilà, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que de saouler des gens qui prennent du plaisir à faire des choses.
Bah grave, ça c'est un message qu'on peut faire passer à tous ceux qui ont cette mauvaise idée
exactement.
D'aller embêter les jeunes filles ou les jeunes hommes sur YouTube. Voilà.
Ouais. Je prends un chocobon, ça va faire du bruit, hop.
Vas-y.
Allez, tac.
En plus, on adore ce bruit. M&M, c'est ouais. Dragibus aussi, si tu veux.
Ah ouais, mais alors là, ça tout. Va être terrible, ça va être ASMR. Moins, ah ouais, il y a un truc... Il y a un espèce de truc fondant et en même temps c'est croquant. Enfin, en termes de texture, c'est vraiment super quoi.
Critique culinaire chocobon bientôt. Tu peux repiocher une question aussi si tu veux.
On va la chercher au fond, elle. Visualise ta boîte à secrets.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Souvenir, qu'est-ce qu'il y a dedans?
C'est une des questions que je préfère, celle-là.
Mes parents, ils ont fait un truc trop cool. C'est que pour nos 18 ans, ils nous ont fait une boîte avec plein de souvenirs. Des photos de notre enfance, nos premiers dessins, nos premiers bulletins, nos photos de classe. Et j'adore les boîtes à souvenirs. J'adore stocker les petits objets, des choses importantes. Pour moi, je mets énormément d'importance dans les petits objets, les choses qui m'ont marquée. Je peux raconter une petite histoire. Je pense que c'est un des objets qui est très précieux pour moi. Il y a quelques années, quand j'étais petite, mon père, après la crise de 2008, il avait monté une petite entreprise avec ma mère qui s'était effondrée avec la crise économique.
Ouais.
Et donc, mon papa a dû prendre un boulot, le premier qu'il a trouvé. Il est parti vivre dans le sud pendant 2 ans. Il avait un petit travail, enfin, il était directeur d'une école. Donc c'était une période très difficile parce que mes parents n'étaient pas ensemble alors que voilà, ils ont toujours été ensemble. Et ma mère se retrouvait à devoir travailler à fond et en même temps s'occuper de nous. Moi, j'étais assez jeune.
T'avais quel âge à ce moment-là, du coup, 2008
Je devais avoir 6 ans. 7 ans,
ouais.
Et 7 ans, c'est ça, 8 ans max. Et en fait, papa a eu une offre d'emploi en Normandie et c'était le seul moyen pour nous de se retrouver. Donc on a déménagé en Normandie, toute ma famille était un peu, enfin on était tous tristes de partir de Nantes parce que ça a été vraiment toujours notre ville de cœur.
Tu y habites depuis que t'es toute petite à
ouais,
Nantes.
Ouais, exactement. Donc ça faisait bizarre mais en même temps la priorité c'était de se retrouver en famille parce que c'était très dur aussi pour mon père d'être tout seul dans le sud sans sa famille. Donc on arrive en Normandie, Il y avait un peu un climat bizarre d'arriver en Normandie. On se sentait pas forcément déjà très accueillis. Il y avait une petite histoire pour le poste de mon papa où les gens de l'équipe voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui soit recruté, mais ça a été mon père, donc lui s'est fait harceler au travail, donc ça a duré très peu de temps, notre voyage en Normandie. Donc il y a eu un procès et tout que mon papa a remporté après, mais donc ça a été une époque très difficile. Et il y a une personne, moi j'ai bien vécu la Normandie globalement, on est resté 8 mois là-bas, après on est retourné à Nantes et on a eu, mes parents ont retrouvé du travail et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à aller mieux. Et quand on est arrivé en Normandie, on cherchait une maison à louer. On avait visité quelques maisons, voilà, comme ça. Et on rentre dans une agence immobilière avec ma mère. Et on tombe sur un monsieur qui nous dit « J'ai peut-être quelque chose, si vous êtes un peu artiste, peut-être que vous allez aimer. Mais bon, ça fait des mois que j'essaye de la louer, mais les gens ne veulent pas. » Et en fait, c'est un grand moulin qui était une maison. Il y avait l'eau qui passait en dessous. Enfin, une maison incroyable. Donc là, on se dit « Oh mon Dieu, génial, à la campagne et tout, super bien. » Et on a rencontré le propriétaire. Qui était un vieux monsieur. Et vraiment, quand j'étais petite, moi, j'ai jamais connu mes grands-pères. Je sais pas, direct, quand j'ai vu ce monsieur, il y a eu un truc des deux côtés où c'était un peu mon grand-père de substitution et lui, sa maison était juste à côté. Donc à partir de ce moment-là, ils ont suivi toute une petite épopée où vraiment, lui, il a eu un transfert parce que sa petite sœur s'appelait Adèle et elle est morte quand elle avait 8 ans. Oh, okay. Donc il y avait un truc un peu de... Voilà, on était très, très liés, tous les deux. Et la petite rivière qui passait en dessous s'appelait Liton. Donc moi, je l'appelais Papiton. Donc on a eu une très très belle relation. Il me prenait dans ses bras, il me montrait des champs, il disait « Là, je mettrai des chevaux pour toi ». Enfin bon, on était tout le temps ensemble. Il m'avait offert pour mon anniversaire un talkie-walkie. Et du coup, quand il avait besoin de moi, il parlait dans le talkie-walkie dans ma chambre parce qu'on n'était pas loin. Donc j'arrivais chez lui. Non, donc c'était une très très belle relation. Et bref, quand on est parti de Normandie pour retourner à Nantes, ça a été vraiment le déchirement de le quitter. Et il m'avait offert une petite boîte avec une espèce de fée princesse. Et puis il avait mis un petit autocollant où il avait marqué pour Adèle la fée de Liton.
Wow.
Et bref, je pense que c'est un des objets qui est le plus important à mes yeux. Voilà, il est décédé il y a quelques années maintenant.
T'avais pu le revoir
Non.
Avant ? Non, tu l'as jamais revu ?
Je l'ai jamais revu, on s'appelait beaucoup, parce que lui aussi ça a été très dur quand on est parti. On a vraiment eu, c'était le seul point positif de la Normandie, c'était un rayon de soleil, ce monsieur.
Il s'appelait comment ?
Je sais pas, je l'appelais Papiton.
Ah ouais, c'est vrai, tu connaissais pas son
prénom ? Bah si, je dois le connaître, mais pour moi ça a toujours été Papiton depuis le début. Et je crois qu'il ne voulait pas se faire appeler autrement, parce que mes parents l'appelaient Papiton aussi.
D'accord. Ah ouais, c'est vraiment... Donc, toute la famille l'avait adopté et inversement.
Ouais, exactement. Et non, c'était assez fou. Quand il me donnait rendez-vous, c'était un enfant. Et quand il me donnait rendez-vous, il disait 18h18 ou 19h19. Il n'y avait pas d'autre horaire. C'était vraiment 20h20, 21h21, mais il n'y avait pas d'autre horaire. Il y a eu une époque à Nantes, quand j'étais rentrée, où je voyais tout le temps l'heure. Je la regardais tout le temps à 18h18, 19h19. Et puis je le dis à mon papa, il me dit c'est un signe, il faut peut-être qu'on appelle Papiton. On a appelé, il venait d'avoir un accident de voiture. Et après, il s'est rétabli. Et puis non, après, il a passé l'arme à gauche il y a 2 ans.
D'accord.
Mais voilà, bref, tout ça pour parler de cet objet.
C'est une super belle histoire en vrai. On dirait l'histoire d'un roman.
Complètement, c'était un vrai personnage, monsieur. Non. C'était une très belle histoire. Et puis, il m'a donné aussi le goût pour la chanson. Il chantait tout le temps du Henri Salvador.
D'accord. Un grand fan.
Notamment une musique. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Un jour sans toi. Et non, du coup, cette musique, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait fondre en larmes. Et je me suis dit un jour que je la reprendrai pour lui.
Pour sa mémoire.
Ouais.
On a hâte d'écouter ça, en vrai. C'est super, super beau comme histoire.
Oui, c'est un peu mon grand-père. D'adoption et non, il me manque beaucoup le boug. Et d'ailleurs, dans cette boîte-là, j'ai retrouvé là, il y a 3 semaines, en rangeant ma chambre, des photos qu'il avait imprimées et plastifiées, où c'était mon anniversaire. Et donc, je vous vois avec le talkie-walkie qu'il venait de m'offrir. Et tu vois tout le monde qui est un peu en mode sérieux. Et nous deux, on est dans notre truc, on est en train de chanter justement cette chanson d'Henri Salvador. Et elle est assez touchante parce qu'il y a un petit montage où tu as plusieurs photos. Et tu nous vois tous les deux en connexion, rien à foutre de ce qui nous entoure. Et on est comme ça en train de chanter. Et moi, j'avais 7 ans. Enfin, ces photos, elles sont super belles. Donc j'ai mis la petite fille qui m'a offert quand je suis partie. Ouais. Et les photos. Et voilà.
Waouh. Et t'es resté combien de temps en Normandie ?
8 mois.
Ah, seulement 8 mois.
Donc ça a été hyper intense, ouais.
Ok, ça a été vraiment une connexion qui a duré 8 mois.
Ouais, c'est ça. Bah, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Et en fait, genre, tous mes week-ends et tout, je les passais avec lui. Je l'aidais pour ses petits travaux dans sa maison. Je faisais du jardinage avec lui.
C'était ton meilleur ami.
Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il avait tout le temps sa radio mise sur Nostalgie. C'était les mêmes chansons qui passaient en boucle. Jouer du piano debout, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les musiques de cette époque. Et moi, j'adorais ça. Donc ça a été un peu aussi les prémices de mon goût aussi pour cette époque.
Ouais, c'est ça.
Ça me fait penser à Papillon.
Ça t'a construit un peu.
Complètement.
Incroyable histoire. Mmh. Merci de nous confier ça, c'est joli.
Avec plaisir.
Si tu veux, tu peux piocher une autre question. Et hommage à Papillon, on lui dit bonjour de là où il est en tout cas.
Ah bah, j'ai hâte de le revoir. Les mots que tu ne dis pas assez à tes proches. Alors moi, je suis une personne, avant, j'étais pas comme ça, mais depuis que j'ai eu ma première histoire d'amour avec Mathieu, et donc j'ai commencé à dire je t'aime vraiment à Mathieu, parce que ben, on était très amoureux, je disais beaucoup plus facilement je t'aime après à ma famille. Donc ouais. Maintenant, le soir, quand je vais me coucher, mes parents, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et voilà, donc je dis beaucoup je t'aime. Même à mon frère, j'ai commencé à le dire. La dernière fois, je lui dis bisous Jean, je t'aime. Et puis il s'arrête, il me dit tu m'as dit quoi là?
C'est mon grand frère.
Oui, c'est mon grand frère.
Et il est très pudique.
Et du coup, il savait pas trop où se mettre parce qu'à la fois, il avait envie de se foutre un peu de moi. En même temps, je sens qu'il était touché, donc il a bégayé, il a fait monsieur, je t'aime, ma tête. C'était trop mignon. Après, ce que je dis pas assez à mes proches. Je pense que c'est un défaut que j'ai de manière générale et sur lequel j'essaie de travailler parce que ça fait un petit bout de temps. Enfin, ça fait pas longtemps justement que j'ai remarqué ce truc de ma personnalité. C'est justement que je suis très caméléon avec les gens et que je vais difficilement donner mon vrai avis sur les choses. Par exemple, dans un débat, je vais, selon les personnes que j'ai en face de moi, alors je vais pas jusqu'à aller à l'entrainte de mes convictions, ça c'est sûr que non. Mais je sais pas, sur un débat un peu philosophique ou quoi, je vais avoir du mal à donner mon vrai avis et même à savoir ce que je veux vraiment, selon les gens que j'ai en face de moi.
Pour pas entrer en confrontation
Ouais, ben, je sais pas, c'est un truc, c'est bizarre, même dans mon trait de personnalité, j'ai tendance à beaucoup m'adapter par rapport aux gens que j'ai en face de moi. Donc je suis un peu la pote de tout le monde, mais parfois je me mets dans des situations où les gens ont l'impression que je leur accorde beaucoup d'importance, et pour moi c'est pas réciproque, mais en même temps eux je leur ai envoyé des signaux, et c'est pas cool. Et donc c'est plus du coup les mots que je dis pas assez à mes proches ou aux gens de manière générale, c'est ce que je ressens vraiment.
Ouais.
Et parfois je me retrouve dans des situations un peu... que je voulais pas forcément, mais comme j'ai pas réussi à le dire, ben voilà.
Ou t'as l'impression de pas être honnête en fait avec la personne que t'as en face
ouais,
de toi.
Après, ou... je suis pas du tout non plus dans le mensonge. Enfin, par exemple, s'il y a quelqu'un que je peux pas voir ou quelqu'un avec qui ça passe pas du tout, ou... enfin ça, je vais pas me forcer non plus. Mais c'est plus c'est vraiment subtil et parfois ça peut être. Enfin, c'est en vrai, je perds rien à dire vraiment ce que je pense ou quoi, mais c'est juste, je sais pas, c'est un blocage psychologique de vouloir trop plaire aux gens un peu pour me rassurer, alors qu'en vrai, mais ça, mes proches, j'ai commencé à leur dire, du coup, j'étais comme ça, et ils le savent, donc voilà. Parfois, j'ai du mal à être moi-même, parce que moi-même, je pense que j'ai du mal à savoir ce que je suis vraiment, c'est normal aussi, c'est l'époque, on change, on grandit, on se cherche, Et oui, non, depuis toute petite, j'ai ce truc un peu de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire rigoler tout le monde. Donc quand il y a quelqu'un qui, je sais, qui a un peu de mal avec ma personnalité, ou je sais pas, qui a pas l'impression que je suis honnête ou quoi, moi ça me... Tu sais, je suis...
ça te peine vraiment, quoi.
Ouais, ça me peine vraiment.
Tu vas essayer d'aller dans ton sens.
Ouais, c'est ça. Ou alors je vais pas non plus essayer d'en faire trop. Mais je vais me poser 1000 questions, je vais dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'il m'aime bien ou quoi Alors ça va, je suis pas le genre de personne qui me met des gens à dos parce que je déteste le conflit. Mais voilà.
Ok, bah, c'est une réponse très honnête.
Oui. En tout cas. J'en prends une autre, du coup.
Oui, vas-y. Je...
Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. C'est trop puissant, une avalanche, quand on a 17 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est, cette phrase, entre guillemets?
Bah, c'est dans Amour Plastique. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Ouais, bah, cette phrase, c'est... L'avalanche, c'est vraiment tout ce qui nous tombe dessus quand on est adolescent. Et là, dans la musique, c'est aussi le contexte des sentiments où voilà, on est bousculé quand on tombe amoureux. Et moi, je sais que quand je suis tombée amoureuse, et Mathieu aussi, c'était un peu ça, j'avais évidemment l'amour, la volonté d'être avec la personne, et c'était hyper, hyper beau et positif. Et en même temps, c'est tellement inconnu ce qui t'arrive que ça fait aussi ressurgir des doutes et des questions. Et donc, moi, je sais que le moment vraiment de bonheur, c'est quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à passer des moments ensemble en se disant, voilà, on est ensemble, on est amoureux. Ça, c'était magnifique. Mais ce moment un peu de... Juste avant de se mettre ensemble, c'était quand même 1000 questions, 1000 sensations différentes. Donc, c'était limite, j'étais un peu torturée parce que je connaissais pas ça. Donc, je me disais, mon Dieu, c'est super beau. Je suis en train de tomber amoureuse. Je vais savoir ce que ça fait. Et en même temps, c'est trop bizarre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me sens aussi touchée, impactée? Donc, l'avalanche, perdue dans l'avalanche de mon cœur égaré, c'est un peu tout ça. C'est quand ça tombe dessus, c'est toute cette question, tout ce bouleversement.
C'est quand tu découvres, en fait,
ouais, c'est ça, cette sensation inconnue qui, après, est addictive. Et d'ailleurs, c'est pour ça, avec Mathieu, quand on est tombés amoureux l'un de l'autre, on n'a jamais eu de doute. On savait que c'était réciproque, ça, c'était assez chouette. Et on ressentait vraiment les mêmes choses. Et juste avant qu'on se mette ensemble et qu'on s'embrasse pour la première fois ou quoi, on disait qu'on était perplexe. On se sentait perplexe, on comprenait pas, on savait pas trop quoi penser, quoi vivre. Et ce mot perplexe, on se l'envoyait tout le temps parce que Mathieu, il adorait parler en morse.
D'accord.
Et donc, il m'envoyait le mot en morse, perplexe, par message vocaux, etc. Et en fait, c'est ce qu'on entend au début de la musique SMS. Il y a du morse.
Ok, incroyable.
Et SMS, c'est une musique qui retrace toute notre relation. Et le début de notre relation, c'était ce sentiment d'être perplexe. Et donc, c'est le petit code qu'on entend en morse, ça veut dire ça, juste avant le début de la chanson, qui est le début de notre histoire.
D'accord, donc on aura ce secret de réalisation.
Exactement,
oui,
on l'a dit à personne.
Ah, trop bien. Bon, bah écoute, on leur en exclut, trop heureuse. Et comment vous vivez avec Mathieu, justement, cet amour perplexe, cette avalanche, etc., publiquement? Plus que votre amour, il a un modèle pour beaucoup d'adolescents et de jeunes aujourd'hui.
Ben ouais, c'est ça. Bah c'est forcément c'est particulier d'être mis en avant comme ça, comme couple. Au début, on se pose pas trop de questions parce que quand on est amoureux, on est à fond et on a un peu envie de le crier à la terre entière. C'est ça, ce qu'on a fait avec nos chansons. On a besoin de dire à tout le monde je suis amoureux de cette personne et c'est trop bien. Et au bout d'un moment, c'est vrai que Il y a des enjeux, et quand il y a la première dispute, on se dit, mon Dieu, mais si un jour ça s'arrête, tout le monde va le savoir. On reçoit des messages de gens qui disent, le jour où Mathieu et Adèle se quittent, je vais me suicider. Enfin, c'est des trucs...
Super encourageant.
T'as l'impression que tu dois quelque chose aux gens, alors que l'amour, quand t'es dans une relation de couple, bah, il faut être heureux personnellement aussi, il faut être bien avec soi, et pour être bien avec l'autre. Et là, on avait l'impression un peu de devoir aussi des choses à d'autres personnes. On a réussi à le gérer et en vrai, ça nous a aussi énormément rapprochés et ça nous a mis aussi dans un truc de fusion tous les deux où on savait qu'on vivait un truc un peu hors du commun, hors norme et donc non, on était quand même, on se protégeait beaucoup l'un l'autre, on était conscients que c'était pas normal. Parfois c'était compliqué, quand tu te disputes avec ton copain ou ta copine, c'est normal aussi parfois pendant 3-4 jours de pas forcément se parler, de se laisser du temps et tout. Bah là, nous, on pouvait pas faire ce genre de choses parce
qu'on
avait un concert ou on avait des répètes. Donc, on n'a pas eu du tout une relation normale.
Et vous avez dû gérer avec ça malgré votre jeune âge quand même, puisque vous connaissez depuis vos 17 ans, si je ne m'abuse, c'est ça.
Exactement. Donc non, c'était pas forcément tout rose. Mais en même temps, ça nous a aussi beaucoup... beaucoup fait grandir et beaucoup rapproché, et ça a été je pense qu'on a toujours été fort aussi par rapport à ça, et c'était le principal, quoi.
Et aujourd'hui, vous avancez sereinement, du coup?
Et aujourd'hui, on avance sereinement. Voilà, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire après ce premier album. Je pense que, voilà, moi, à titre personnel, je ne sais pas si je me sens prête tout de suite à faire un deuxième album pour Vidéoclub, parce que ça a été assez fort comme aventure, et je veux être sûre de quoi raconter après, si pour la suite. Donc peut-être qu'on va se laisser un peu de temps là après ce premier album. Déjà, on continue à le promouvoir et on essaie de l'emmener le plus loin possible. Et puis ensuite, voilà, je sais que Mathieu, il a été contacté pour produire pour d'autres artistes. Je crois que c'est quelque chose qui l'excite beaucoup. Donc peut-être qu'il va s'y tenter un peu. Et je pense que c'est super chouette parce que, voilà, Vidéoclub, c'est une aventure incroyable et un projet magnifique. Maintenant, je pense que c'est important aussi de s'épanouir personnellement, c'est parce ça. Que ça met beaucoup de choses sur notre relation à tous les deux et sur un projet qui repose aussi sur notre relation. Donc c'est beaucoup de pression. Et je pense que c'est bien qu'on essaye aussi de refaire des choses aussi pour nous, personnellement. En tout cas, de prendre un peu de temps. Donc voilà, je suis en train de réfléchir aussi à un projet solo à côté.
Ok, en chant, ce serait chouette. Ce serait l'idée.
Ouais, du coup, ce serait de la pop chantée française. Et voilà.
Ok, et peut-être le morceau pour Papiton sur ce projet-là.
Ah bah
alors.
Peut-être, ce serait chouette.
Ce serait trop bien. Ben, merci beaucoup, Adèle.
Merci à vous pour l'invitation à cette soirée pyjama.
Écoute, c'était une super soirée pyjama. On va te laisser du coup pour la dernière étape du podcast, donc la confidence.
J'ai peur.
Respire. Quel message voudrais-tu adresser à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast? C'est une bouteille à la mer, vraiment la personne, the personne, qui n'écoutera jamais ce contenu. Et tu lui dois un message, en fait, tout okay. simplement.
Ok, d'accord.
Et on va sortir de la salle et on va te laisser répondre à cette question-là.
En mode confidence.
C'est ça, la okay. confidence.
Monsieur Caillou, mon professeur d'histoire-géographie, mon ancien professeur d'histoire-géographie, avec qui j'avais une excellente relation. J'étais plutôt bonne élève, je faisais un peu rigoler ce professeur et tout. Et c'était vraiment une personne qui m'a fait aimer l'histoire à fond. C'était vraiment un très très bon professeur. Et moi, comme une débile mentale, j'ai fait une soirée et j'avais le numéro de téléphone de ce professeur. Et on a fait un canular à Monsieur Caillou. Et dans ce canular, on était un peu méchants. On a appelé en anonyme, mais on s'est fait cramer. Et j'ai eu un conseil de discipline, ça s'est bien passé, je suis restée en cours parce que j'avais pas de problème sinon de comportement ou quoi. Mais depuis ce jour, Monsieur Caillou, il m'aimait plus trop forcément. En tout cas, j'ai senti qu'il était blessé, vexé. Et ça, je m'en voudrais toujours parce que c'était vraiment stupide. En plus, je pensais pas un seul mot de ce que je disais dans le canular, enfin ce que mon pote disait. Et j'y pense souvent, je regrette énormément. Alors je sais que je me suis déjà excusée un peu parce qu'il le fallait dans le bureau de la directrice, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait de la peine parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé conserver cette bonne relation de professeur qui te stimule et qui te fait aimer une matière comme ça. Je sais que l'école, ça a été très important pour moi à une époque. C'était un peu ce qui me permettait de garder les pieds sur terre, de garder le cap et de rester dans un cadre qui me faisait du bien, et voilà, je regrette. Alors, Monsieur Caillou, je sais que vous ne tomberez jamais sur ce podcast, mais je suis désolée.
Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine.
Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois PayPal. Les conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.